Vous savez vous-même, frères et sœurs, que notre arrivée chez vous n'a pas été sans résultat. Après avoir souffert et avoir maltraité à Philippe, comme vous le savez, nous avons pris de l'assurance en notre Dieu pour vous annoncer l'évangile de Dieu à travers bien des combats. En effet, notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur des motifs impurs, ni sur la ruse. Mais, puisque Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'évangile, nous parlons non dans l'idée de plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu qui éprouve notre cœur. Jamais, en effet, nous n'avons eu recours à des paroles flatteuses, comme vous le savez. Jamais, nous n'avons eu la soif de posséder pour mobile. Dieu en est témoin. Nous n'avons pas recherché la gloire qui vient des hommes, ni de vous, ni des autres. Nous aurions pu nous imposer en tant qu'apôtres de Christ. Mais nous avons été pleins de bienveillance au milieu de vous. De même qu'une mère prend un tendre soin de ses enfants, nous aurions voulu, dans notre vive affection pour vous, non seulement vous donner l'évangile de Dieu, mais encore notre propre vie, tant vous nous étiez devenus chers. Vous vous rappelez, frères et sœurs, notre peine et notre fatigue. C'est un travaillant nuit et jour pour n'être à la charge d'aucun d'entre vous et que nous vous avons prêché l'évangile de Dieu. Vous en êtes témoins et Dieu l'est aussi. Nous nous sommes comportés envers vous qui croyez d'une manière sainte, juste et irréprochable. Vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants. Nous vous avons encouragé, réconforté et supplié de marcher d'une manière digne de Dieu, qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. C'est pourquoi nous disons sans cesse à Dieu toute notre reconnaissance de ce que, en recevant la parole de Dieu, que nous vous avons fait entendre. Vous l'avez accueillie non comme la parole des hommes, mais comme ce qu'elle est vraiment, la parole de Dieu agissant en vous qui croyez. De fait, vous, frères et sœurs, vous êtes devenus les imitateurs des églises de Dieu qui sont en Jésus-Christ en Judée, parce que vous aussi, vous avez enduré de la part de vos propres compatriotes les mêmes souffrances qu'elles de la part des Juifs. Ils ont fait mourir le Seigneur Jésus et leurs prophètes, ils nous ont persécutés. Ils ne plaisent pas à Dieu, ils se comportent en adversaires de tous les hommes. Ils nous empêchent de parler aux non-juifs pour qu'ils soient sauvés et portent ainsi constamment leurs péchés à leur comble. Mais la colère a fini par les atteindre. Amen.
Merci Nour. Si c'est bien ce micro, il est à la bonne taille pour moi. Donc, alors, avant de commencer, on est obligé de faire une parenthèse, en fait, sur les derniers versets, les deux derniers versets qui ont été lus, parce que vous l'aurez noté, les propos de Paul à l'égard des Juifs sont très virulents. Et ça peut créer un malaise, surtout pour ceux qui ne connaissent peut-être pas l'apôtre Paul ni son histoire. Et donc, je ne voudrais pas qu'on puisse imaginer que l'apôtre Paul est antisémite. Donc, pour autant, ce n'est pas le message central hein, de ce texte, même si ces versets sont importants. Donc, on ne va pas prendre trop de temps là-dessus et on va juste faire une parenthèse. Une parenthèse pour rappeler déjà que Paul, qui écrit ses propos, est lui-même juif. Et non seulement il est juif, mais il aime sa nation d'origine. Puisque dans Romains 9, versets 2 à 5, c'est le même apôtre Paul qui déclare qu'il préférerait se sacrifier pour, je cite, « mes frères, mes propres compatriotes, les Israélites ». Alors il est vrai que Paul aussi, je pense, est très dur parce que D'une certaine manière aussi, dans ces versets, il parle de sa propre expérience passée. Avant de se convertir, Paul a fait partie des persécuteurs de l'Église. Il faisait partie d'une partie de juifs intégristes qui ont persécuté l'Église. Alors maintenant, simplement concernant ces versets, je vous invite à les lire avec moi, enfin pas à les lire, mais à les avoir sous les yeux, et puis d'une manière plus générale, d'ailleurs tout au long de la prédication, je vous encourage à garder les Bibles ouvertes pour suivre dans le texte ce qu'on évoquera. Donc ces deux versets, les versets 15 et 16, contiennent six accusations. Alors la première, c'est que les Juifs ont tué Jésus. Alors les évangiles et les écrits de Paul soulignent surtout que ce sont tous les hommes qui sont responsables collectivement, les Juifs, mais aussi les Romains, et chacun d'entre nous. Mais ici, Paul n'évoque que les Juifs en raison du contexte immédiat. Il écrit à l'église de Thessalonique. Or, à Thessalonique, ce sont des Juifs extrémistes qui persécutent l'église. Et donc, qui font écho à ce que Jésus a lui-même connu. La deuxième accusation, c'est que bon, les Juifs ont tué les prophètes. Or ça, dès l'Ancien Testament, des prophètes comme Élie ou Néhémie accusent les Israélites de cela. Et évidemment, ça ne fait pas de ces prophètes des antisémites. Alors les troisième et quatrième accusations, ils ne plaisent pas à Dieu et sont ennemis de tous les hommes. Alors vous aurez noté que ces troisième et quatrième accusations sont liées à ce qui suit. Ce ne sont pas des accusations qui sont un jugement racial et définitif. C'est lié au dernier verset, à savoir pourquoi ils ne plaisent pas à Dieu et pourquoi ils sont ennemis de tous les hommes. Eh bien, c'est parce qu'au moment où Paul écrit, ils sont en train, pour certains d'entre eux, d'empêcher de parler aux païens pour qu'ils soient sauvés. Et enfin, dernière accusation, ils continuent, ils s'endurcissent dans ce péché-là. Donc au moment où Paul écrit cela, ces faits sont historiques, objectifs. Nous sommes en pleine persécution de l'Église par les religieux juifs. Alors c'est vrai que ces versets sont un réquisitoire, mais en fait ils sont un réquisitoire seulement envers ceux qui, parmi les juifs, persécutent l'Église. Alors je ferme là la parenthèse. Mais bon, bien sûr, je reste à votre disposition pour en parler. À l'issue de ce culte, je suis à la sortie, donc on peut continuer à en parler ensemble si vous le souhaitez. Alors, je vous propose de débuter notre exposé et à le faire avec cette vignette qui reprend le site de l'Église. Sur le site de l'Église est rappelée notre mission. Nous voulons faire des disciples de Jésus-Christ. Telle est notre mission, et ça implique trois choses. Faire des disciples de Jésus-Christ, ça veut dire évangéliser, ça veut dire édifier, et ça veut dire envoyer. Et ce matin, je vous propose en fait de nous arrêter sur cette première mission, l'évangélisation. Alors c'est quoi l'évangélisation ? C'est très simple. Nous avons reçu une bonne nouvelle. Nous avons même reçu une excellente nouvelle. Et donc nous devons la transmettre aux autres. Parce que cette bonne nouvelle concerne toute l'humanité. Alors, quelle est cette bonne nouvelle ? Eh bien, Paul l'a résumée juste avant notre passage, dans le dernier verset du chapitre 1. Cette bonne nouvelle, c'est que Dieu nous appelle à le servir et à attendre du ciel son Fils qu'il a ressuscité, Jésus, celui qui nous délivre de la colère à venir. Alors voilà la bonne nouvelle que nous devons transmettre. Reste à savoir comment transmettre l'Évangile. C'est-à-dire comment le transmettre d'une manière qui plaise à Dieu. Dans ce passage, Paul nous relate son expérience justement d'évangéliste à Thessalonique. Et donc il nous donne des bons tuyaux en la matière. Alors je vous propose de voir deux choses. Alors d'abord, la forme d'une évangélisation authentique, à quoi ressemble une évangélisation selon la volonté de Dieu. Donc ça, c'est les versets 1 à 12. Puis nous verrons les effets d'une évangélisation authentique, les versets 13 à 16. Alors d'abord, la forme d'une évangélisation authentique. Dans ces versets 1 à 12, elle revêt quatre aspects. Une évangélisation authentique, c'est d'abord une évangélisation qui s'appuie sur Dieu. Ça, c'est les versets 2 à 3. Ensuite, c'est une évangélisation qui cherche à plaire à Dieu. Verset 4 jusqu'au début du verset 6. De plus, c'est une évangélisation qui manifeste l'amour de Dieu. C'est la suite du verset 6 jusqu'au verset 9. Et enfin, 10 à 12, c'est une évangélisation qui manifeste aussi la sainteté de Dieu. Alors d'abord, l'évangélisation authentique s'appuie sur Dieu. Parler de Dieu aux autres n'est pas sans risque. Paul a été maltraité à Philippe, dans la ville de Philippe, et il a même été jeté en prison. Pourtant, on voit que Paul, sitôt arrivé à Thessalonique, continue à annoncer l'évangile. Alors d'où lui vient sa détermination ? Eh bien, verset 2, après avoir souffert et avoir été maltraité à Philippe, comme vous le savez, nous avons pris de l'assurance en notre Dieu pour vous annoncer l'évangile de Dieu à travers bien des combats. Donc une évangélisation authentique puise son courage en Dieu. Mais comment ? Dieu ne nous demande pas d'être des surhommes, mais de croire que lui en est un, car il est Dieu. Alors c'est vrai qu'en évangélisant, nous subissons parfois le désintérêt, les moqueries, voire l'opposition. Et pour reprendre courage, je pense qu'il est important de passer du temps avec Dieu. Dans la prière, bien sûr, mais aussi en lisant la Bible. Parce que ainsi, on retrouve confiance. Notamment en lisant la Bible, on redécouvre les prodiges que Dieu a accomplis. Et ça nous encourage. S'appuyer sur Dieu, c'est aussi être vrai. Et là, on peut relire le verset 3. Notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur des motifs impurs, ni sur la ruse. Si on s'appuie vraiment sur Dieu, on n'a pas besoin de ruse. Encore moins de manipulation mentale. Nos motifs doivent être purs et nos méthodes doivent être honnêtes. Par exemple, comme sorte de manipulation mentale, affirmer à un malade qu'il sera guéri s'il se convertit, c'est un mensonge. Prétendre qu'avec Dieu dans sa vie, les soucis du quotidien disparaîtront, c'est un mensonge. Ce genre de procédé témoigne surtout d'un manque de confiance en Dieu. C'est chercher en fait à convertir l'autre par nos propres moyens, par la ruse. Or, s'appuyer sur Dieu, c'est lui abandonner le soin de convertir les cœurs. Dieu seul touche les cœurs. Donc, faire confiance à Dieu, puis, deuxième temps, l'évangélisation authentique cherche à plaire à Dieu. Verset 4 jusqu'au début du verset 6, on peut les relire ensemble. Mais puisque Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'évangile, nous parlons. Non dans l'idée de plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu qui éprouve notre cœur. Jamais en effet nous n'avons eu recours à des paroles flatteuses, comme vous le savez. Jamais nous n'avons eu la soif de posséder pour mobile, Dieu en est témoin. Nous n'avons pas recherché la gloire qui vient des hommes, ni de vous ni des autres. Paul veut uniquement plaire à Dieu. Mais comment plaire à Dieu ? Comment plaire à Dieu ? Eh bien, en parlant, en proclamant l'évangile. Verset 4, puisque Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'évangile, nous parlons pour plaire à Dieu. Alors cela souligne l'importance de la proclamation. L'évangile doit être dit. Les actes ne remplacent pas les paroles, ils les accompagnent. Alors qu'est-ce qui nous empêche de parler ? Parfois, ça peut être nos priorités. J'ai mes chats sur Facebook, mes cours de guitare, mes fêtes entre potes. Je n'ai plus le temps. Bah, en fait, non, parce que ce n'est pas un problème de temps. Dans toutes ces activités, je peux parler de l'évangile aux autres. Une histoire de priorité, une histoire aussi de peur. La peur nous empêche parfois de parler. Alors l'apôtre Paul risquait sa vie. D'ailleurs, il y a laissé sa vie à la fin. Nous, on a peur pour notre image, pour notre place dans notre cercle d'amis. Alors à la rigueur, c'est vrai qu'on peut parler des aspects consensuels de l'évangile. Par exemple, parler de l'engagement social du chrétien, c'est rarement critiqué. Mais briller dans un dîner en parlant de la croix, c'est plus dur. Pour plaire à Dieu, nous devons parler. Mais pas pour dire n'importe quoi. Verset 4, Paul rappelle que l'évangile lui a été confié par Dieu. Ça veut dire que le contenu du message appartient à Dieu. Dieu en confie la proclamation aux hommes, mais à charge pour ces derniers de dire tout l'évangile et rien que l'évangile. Alors est-ce que nous présentons, en tant qu'église ou en tant qu'individu, est-ce que nous présentons l'évangile fidèlement ? Ou bien préférons-nous en occulter certains pans ? C'est pas facile de parler du jugement, de l'enfer. Ce passage appelle à rejeter les paroles flatteuses. Alors c'est vrai qu'il y a plusieurs manières de flatter, mais je pense que présenter l'évangile sans parler du péché en est une. Poursuivons. L'évangile authentique manifeste l'amour de Dieu. Relisons ensemble la suite du verset 6 jusqu'au verset 9. Nous aurions pu nous imposer en tant qu'apôtres de Christ, mais nous avons été pleins de bienveillance au milieu de vous. De même qu'une mère prend un tendre soin de ses enfants, nous aurions voulu, dans notre vive affection pour vous, non seulement vous donner l'évangile de Dieu, mais encore notre propre vie, tant vous nous étiez devenus chers. Vous vous rappelez, frères et sœurs, notre peine et notre fatigue, c'est en travaillant, nuit et jour, pour n'être à la charge d'aucun d'entre vous, que nous vous avons prêché l'évangile de Dieu. Alors Paul parle de sa vive affection pour les Thessaloniciens, il évoque l'amour maternel. Ce sont des termes, des notions très fortes. L'évangélisation n'est pas la froide transmission d'une nouvelle. Elle n'est pas une proclamation impersonnelle d'un message. Nous ne sommes pas des messageries évangéliques. Vous savez, vous avez un nouveau message de Dieu. Si vous souhaitez l'écouter, tapez 1. Si vous souhaitez le supprimer, tapez 2. Non, nous représentons Dieu dans ce monde. Or, Dieu est amour. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Paul a tant aimé les Thessaloniciens qu'il était prêt à donner sa vie pour eux. L'évangélisation est un acte fort d'amour. Amour pour Dieu et amour pour les autres. Et un amour qui va jusqu'à donner sa vie. Alors c'est vrai que quand on dit ça, on voit tout de suite la reine, les lions et la mise à mort. Mais donner sa vie, c'est souvent une multitude de petits sacrifices, modestes. Mais quotidien. C'est d'ailleurs ce qu'a fait Paul. Ce n'était pas qu'une affaire de sentiments. En fait, Paul, il a plutôt fait dans le concret. Déjà, à la fin du verset 6, on voit qu'il a usé de bienveillance plutôt que d'autorité. L'occasion de rappeler que l'évangélisation est affaire de douceur, de respect de l'autre. On ne cherche pas à soumettre l'autre. Ensuite, on voit que Paul a travaillé pour éviter de dépendre financièrement des autres. Alors attention, en tant qu'ouvrier de Dieu, il aurait très bien pu exiger un soutien financier. Mais pour montrer l'exemple, il a sacrifié ce droit et il a manifesté ainsi un amour très concret. Dernier aspect, l'évangélisation authentique manifeste la sainteté de Dieu. Alors relisons les versets 10 à 12. Vous en êtes témoins, et Dieu l'est aussi. Nous nous sommes comportés envers vous qui croyez d'une manière sainte, juste et irréprochable. Vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants. Nous vous avons encouragé, réconforté et supplié de marcher d'une manière digne de Dieu qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. Alors nous avons dit que l'évangélisation est d'abord une proclamation, mais il faut aussi des actes. Les paroles sont primordiales, mais sans les actes, elles sont dépréciées. Verset 10, nous nous sommes comportés envers vous qui croyez d'une manière sainte, juste et irréprochable. L'évangélisation, c'est chercher à vivre ce qu'on proclame. Et souvenons-nous qu'une vie sainte montre la puissance de l'évangile. Il s'agit aussi, entre guillemets, d'assurer le service après-vente. Verset 12, nous vous avons encouragé, réconforté et supplié de marcher d'une manière digne de Dieu. Une fois qu'une personne donne sa vie au Seigneur, on continue, on l'encourage à persévérer, c'est-à-dire à vivre ce qu'elle croit désormais. Car c'est le seul moyen de s'assurer que sa foi est réelle. La foi et la sanctification sont indissociables, tout comme la foi et la persévérance. Alors voilà à quoi ressemble l'évangélisation selon Dieu. Elle s'appuie uniquement sur Dieu, elle se vit pour lui faire plaisir à lui, et elle consiste à aimer les autres comme lui nous a aimés, et à vivre une vie cohérente avec ce que l'on prêche. Et au regard de cela, une question se pose. Qui de nous est capable de vivre une telle évangélisation? Qui de nous est capable de vivre cela? Alors la réponse se trouve dans notre seconde partie, qui je l'espère sera plus courte. Les effets d'une évangélisation authentique. Alors là, je vous propose de retenir trois choses. L'action de Dieu, puis la décision des Thessaloniciens, ça c'est à chaque fois au verset 13, et enfin la conséquence de cette décision des Thessaloniciens, verset 13 à 16. Alors commençons par voir l'action de Dieu. Mais déjà, Dieu a-t-il agi? Moi, j'ai surtout l'impression que c'est Paul qui agit. Verset 1, d'ailleurs, Paul le dit lui-même. Il précise que son évangélisation n'a pas été sans résultat. Et il faut savoir que le livre des Actes confirme cela. Je cite un passage du livre des Actes qui nous raconte son évangélisation à Thessalonique. Paul et Silas arrivèrent à Thessalonique où les Juifs avaient une synagogue. Paul y entra, conformément à son habitude. Alors attention, pendant trois sabbats, il discuta avec eux à partir des Écritures. Résultat, quelques-uns d'entre eux furent convaincus et se joignirent à Paul et à Silas, ainsi qu'un grand nombre de non-juifs qui craignaient Dieu, et beaucoup de femmes importantes. Donc voilà, trois semaines top chrono, et Paul vous crée une nouvelle église. Donc ça, c'est du résultat. Alors ici, où en sommes-nous? Avec nos soirées bonnes franquettes, nos sondages, nos fêtes des enfants. Alors j'ai fait le calcul, hein. On a commencé il y a 4 ans, donc à raison d'une église toutes les 3 semaines, hein, si on suit le rythme de Paul, on devrait être en train d'inaugurer notre 69e église. Autant dire que nous avons pris du retard. Oui mais voilà, ça ne marche pas comme ça. Après Thessalonique, il y aura Athènes. Et là, seulement quelques conversions. Notre responsabilité, c'est celle de proclamer l'Évangile. Mais le résultat, c'est l'affaire de Dieu. Relisons le verset 13. Paul dit, « C'est pourquoi nous disons sans cesse à Dieu toute notre reconnaissance. » Paul remercie Dieu parce qu'il sait que c'est Dieu qui a touché les cœurs. D'ailleurs, dès le verset 12, il nous rappelle que c'est Dieu qui appelle. Nos efforts d'évangélisation ne fonctionnent pas en eux-mêmes. Dieu seul peut donner des résultats à notre travail. Alors certains vont peut-être se dire, puisque c'est Dieu qui agit, laissons-le tout faire. Quant à nous, nous attendrons tranquillement dans l'Église. Mais l'action de Dieu ne doit pas nous démobiliser. au contraire. Déjà parce que Dieu a choisi l'évangélisation pour se faire connaître. Dans sa souveraineté, il a décidé de se servir de notre proclamation. Dès lors, nous n'avons plus le choix. Et ensuite, l'action de Dieu est plutôt un formidable encouragement à évangéliser. Quel soulagement de savoir que seule notre participation est requise, mais que le succès ne repose pas sur nos forces, sur nos moyens. Notre responsabilité se limite à parler. Et cela nous amène à une autre responsabilité, celle de ceux qui écoutent. Alors examinons la décision prise par les Thessaloniciens. Verset 13. En recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez accueillie, non comme la parole des hommes, mais comme ce qu'elle est vraiment, la parole de Dieu agissant en vous qui croyez. Deux choses. D'abord, les Thessaloniciens ont reçu et accueilli la parole. Ils n'ont pas seulement écouté, ils n'ont pas seulement trouvé intéressante, distrayante. Non, ils l'ont accueillie, c'est-à-dire qu'ils se sont appropriés personnellement la parole. Ensuite, deuxième chose, ils ont reçu la parole comme étant la parole de Dieu. Pas une philosophie parmi d'autres, pas une belle histoire. Non, l'évangile, c'était Dieu qui s'adressait à eux. Alors que faisons-nous de la parole que nous entendons ? S'exposer à la prédication de l'évangile ne suffit pas. Venir aux ateliers du jeudi, c'est bien. Venir le dimanche matin, c'est bien. Mais après, Dieu veut que nous recevions l'évangile, que nous l'accueillions dans notre cœur et que nous lui reconnaissions toute sa valeur, celle d'une parole de Dieu. De même, dans nos cultes personnels, lorsque nous lisons la Bible, quelle est notre attitude ? Est-ce un texte parmi d'autres ou est-ce Dieu qui parle ? Est-ce que nous avons une attitude d'humilité et de soumission face à la parole ? Alors terminons par la conséquence de la décision des Thessaloniciens. La conséquence, c'est une transformation. Une transformation. Fin du verset 13. La parole de Dieu agissant en vous qui croyez. La parole agit dans chaque Thessalonicien converti. Et elle fait d'eux des êtres nouveaux. Et nous croyons qu'aujourd'hui encore, par sa parole, Dieu transforme les hommes. Il les amène à la ressemblance de Jésus. Alors cet élément est capital. Capital. Cela a un double titre. D'abord parce que cette transformation prouve que nous avons vraiment reçu la parole. Quand la parole est à l'œuvre, cela se voit. Mais aussi parce que ce verset répond à notre question restée en suspens. Qui de nous est capable de vivre une évangélisation authentique ? Aucun de nous n'en est capable. Toutes ces choses sont en dehors de nous. Mais nous voyons ici que la parole agit en nous. Dieu peut nous changer, et c'est ce qu'il fait actuellement par l'action de sa parole. Dieu peut nous rendre capables de vivre cette évangélisation authentique de notre première partie. Et si vous êtes encore sceptique, eh bien vous avez un exemple sous vos yeux. Non pas moi, mais l'apôtre Paul. Nous l'avons dit, l'apôtre Paul était un ancien persécuteur de l'Église. Mais Dieu a changé son cœur et a fait de lui cet évangéliste dont nous avons vu le portrait dans la première partie. Alors il est temps de conclure. Paul et les Thessaloniciens ont proclamé l'Évangile. Mais les trois derniers versets montrent que cela leur a coûté très cher. Alors, il est vrai que notre contexte semble très différent de celui de l'apôtre Paul. Notre société se veut libre et tolérante, Et clairement, elle l'est plus que l'Empire romain. Mais en réalité, le monde qui nous entoure n'est pas spirituellement neutre. Il est toujours rebelle à Dieu et à ceux qui lui appartiennent. Et je pense que, assez largement, notre société veut nous empêcher de parler. Parler de l'Évangile, ce serait du prosélytisme agressif. Ça menacerait la sainte laïcité. Croire qu'il existe une seule vérité, c'est de la prétention, de l'arrogance, de l'intolérance. Et donc, résultat des courses, nous subissons le mépris, les moqueries, parfois une forme de marginalisation. Oui, notre monde s'oppose toujours autant à l'Évangile. Mais cela ne doit pas nous troubler. Si le monde nous laisse en paix, c'est là que ça devient inquiétant. Alors, plaçons notre confiance en Dieu. Il a su changer le cœur d'un persécuteur comme Paul. Il saura continuer à faire de grandes choses. Et en cette rentrée, mobilisons-nous pour proclamer la bonne nouvelle du salut en Christ. En tant qu'Église, mais aussi en tant qu'individu. Dieu veut continuer à se servir de sa parole pour toucher des cœurs et pour les changer. Je vous invite à prier. Merci Seigneur pour ton évangile, pour cette formidable nouvelle. Tu as envoyé ton propre fils mourir à notre place. Son sacrifice à la croix qui nous délivre définitivement de ta colère. Dans ta grâce, utilise-nous pour proclamer ce beau message. Là où tu nous as placés, que nos paroles disent qui tu es et tout ce que tu as fait, et que nos actes reflètent à la fois ton amour, mais aussi ta sainteté. Dans ta puissance, utilise nos faibles moyens et ramène à toi encore un grand nombre de personnes. Au nom de Jésus-Christ. Amen.